Y Parejo, atención a la pérdida, roba Correa, Correa desde el medio, Correa. William Carballo, el autopase, William, por Dios, qué gol. El golpeo y el bueno sin botón, otra vez de Courtois, espectacular. Dice el árbitro que no pasa nada, Rakitic, que va a golpear.
Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Ligue Actu, on est enfin de retour, et oui, mes amis, ça fait 2-3 semaines là, qu'on n'a pas parlé d'une prévia, qu'on n'a pas vraiment profité voilà, de cet espace pour présenter un gros match. Ça nous a manqué, mais voilà, on est bien de retour, et en plus, bon, je pense qu'on a bien choisi notre date. Hein. Là, c'est un week-end très chargé, beaucoup d'affiches, une Liga qui se réchauffe, hein. La lutte pour l'Europe est là, la lutte pour le titre aussi, pourquoi pas, c'est pas encore fini. Et on va parler, à l'occasion de ce numéro, du match du dimanche soir, de 21h, du Partidas, le Real Betis, qui affronte le Real Madrid. Pour nous parler du Real Betis, malheureusement... Bon, malheureusement, non. On ne peut pas dire malheureusement quand on va présenter le jefe. Voilà, on n'a pas eu de supporter Betico, mais voilà, Ruben va s'en charger. Comment vas-tu, Ruben ?
Eh bien, écoute, ça va nickel. Très content de revenir dans les podcasts. C'est vrai que tu l'as dit, il y a eu contraintes personnelles, des vacances un peu pour tout le monde. Tout ça s'est tombé en même temps, mais effectivement, on revient. Et puis, sacré match. Il y a eu beaucoup de choses aussi en Liga qui se sont passées. On va reparler. Mais voilà, en tout cas, très content de parler, même du Betis, voilà, qui évidemment est un club qui est en pleine course pour l'Europe. Donc, c'est pareil, il y a tellement de choses à évoquer dans ce numéro, mais très content d'être ici pour ce podcast. Ouais.
C'est ça. Ligue Actu a posé les RTT, hein, on va dire. Mais et puis, bon, bien sûr, pour nous parler du Real Madrid, Angie, comment ça va ?
Ben ça pourrait aller mieux, mais disons que voilà, ça va. Et puis reparler avec vous voilà, de matchs entre le Betis et le Real Madrid, ça sera toujours un plaisir.
Voilà, ben c'est ça, c'est parfait. C'est sûr que bon, ça fait écho peut-être à la défaite d'hier du Classico. Bon, c'est des choses qui arrivent, il faut passer outre, on va dire. Non, allez, plus sérieusement, rentrons quand même dans le vif du sujet. Je commence avec toi, Ruben, vu que c'est le match a lieu au Benito Villamarín. Le Betis est aux portes du top 4, notamment, alors ça me permet de saluer Lucas, Gourvan, c'est dû à la mauvaise situation de la Real Sociedad qui a un peu dilapidé son avance. Pareil pour l'Atleti, voilà. Un Betis qui se mêle à la lutte pour la Ligue des Champions, mais qui a du mal contre les gros. Une défaite face au Barça récemment, qui a perdu face à l'Atlético, qui a perdu aussi face au Real Madrid en début de saison. Voilà, c'est une saison un peu en demi-teinte. Comment tu expliques, toi, peut-être ce blocage, tout simplement ?
Mais je dirais d'abord pour commencer que ce Betis, déjà, est-ce que tu parlais des matchs qui étaient notamment assez récents, tu parlais du match face au Barça, tu parlais dans les deux matchs face au Barça qu'il y a eu, il y a eu celui en Supercoupe d'Espagne et puis celui en Liga, c'est des matchs bon, que le Betis effectivement n'a pas tellement maîtrisé, mais celui de Supercoupe d'Espagne peut-être un peu plus, si, mais je dirais que c'est dans la dynamique récente, ce Betis déjà me paraît un peu plus juste. Enfin, on voit bien que même les victoires quand même sont assez difficiles. Je commence par ce point, puis après je reviendrai sur les gros, parce que on l'a vu la semaine dernière à Elche, ça a été quand même très compliqué. Il y a eu trois pénaltys notamment, il y a eu une victoire compliquée contre Valladolid aussi la semaine d'avant. Pareil, une défaite contre le Celta qui avait fait quand même pas mal de bruit quelques semaines plus tôt encore. Donc ça, c'était des matchs, on va dire, plus abordables, mais on avait vu que ce Betis avait quand même une certaine difficulté maintenant pour les matchs face au Barça qui n'ont pas été réussis. Je pense que tout simplement, c'est une histoire de dynamique. Après, face au gros, de manière plus générale, je pense que c'est aussi dans la préparation des matchs que choisit Pellegrini. Je trouve que, et c'est dommage d'ailleurs, parce que ce Betis, on est capable de faire beaucoup de bonnes choses. Moi, je prends l'exemple souvent du match face, alors sans arrière-pense évidemment, mais des matchs face à la Real Sociedad qui, notamment l'année dernière, on se souvient qu'il y a eu les 4-0. C'était des matchs comme la Real Sociedad, qui est une équipe maintenant qui est troisième de Liga, qui est en lutte pour une place en LDC, qui est bon, un rival direct du Betis. C'est des matchs quand le Betis choisit de jouer. Voilà, c'est des matchs que le Betis peut faire mal. Et je pense que face au Barça, face au Real Madrid, face à Atlético aussi, sans pour autant être ridicule, je trouve que ce Betis en fait est peut-être aussi pas assez entreprenant, pas assez ambitieux. Évidemment, il y a quand même aussi une certaine logique à respecter parce que tu vas pas t'ouvrir n'importe comment non plus face à des équipes comme le Barça, comme le Real Madrid, qui sont offensivement des équipes qui peuvent te faire très mal. Mais je pense que oui, c'est surtout que le Betis devrait prendre, à mon sens, l'initiative du jeu assez, enfin, on va dire de manière plus régulière et plus spontanée, parce que cette équipe du Betis, bon, alors on va y revenir après, elle a maintenant des pertes un peu importantes sur le point de l'attaque, mais c'est une équipe qui est quand même capable de faire beaucoup de dégâts. Et je pense que ce qui a souvent porté un peu préjudice à cette équipe, c'est oui, le fait qu'elle attende trop, qu'elle soit trop attentiste, parce qu'on l'a vu dans tous les autres matchs sinon qui ont été joués cette saison. Quand même, le Betis, c'est relativement peu de défaites, alors c'est pas le chiffre sous les yeux, mais de manière générale, ils ont quand même géré la plupart de leurs autres rencontres contre le reste du tableau, si on enlève évidemment les trois gros, on va dire. Ils ont battu la Real Sociedad, ils ont battu, je crois, ils ont battu, si je dis pas de bêtises, ils ont battu Villarreal aussi. Il faudra que je revérifie, mais il me semble qu'ils avaient battu Villarreal en tout cas. Donc c'est une équipe, voilà, qui est capable de faire vraiment, contre les équipes directes et contre les équipes de plus bas de tableau, qui est capable largement d'assurer en tout cas ses matchs et de prendre des points. Maintenant, c'est vrai que face au gros, bon, évidemment, il y a un contexte à respecter. En face, il y a des rapports de force qui sont pas les mêmes, et il y a très peu d'équipes qui arrivent régulièrement à battre les cadors que sont le Real Madrid et le Barça et même l'Atlético. Mais voilà, je pense qu'en tout cas, ce Bétis, moi, je remettrais ça sur peut-être le fait du manque d'initiative, le manque de prise de décision et voilà, le manque en tout cas d'ambition parfois qu'on peut retrouver chez cette équipe qui, voilà, parfois lui porte plus préjudice qu'autre chose, parce que pour finir, on a même vu en Europa League, contre des matchs contre la Roma bah voilà, la Roma qui est quand même pas un adversaire à sous-estimer non plus. C'était, voilà, on avait vu un Betis qui, mine de rien, en Europa League, sur toute la phase de poule, d'ailleurs, on verra bientôt ce que ça donnera contre United en Europa League aussi. C'est une équipe qui, vraiment, voilà, quand elle avait choisi de jouer, elle avait réussi à proposer des matchs vraiment intéressants, un contenu intéressant, et au final, une phase de poule qui avait été largement réussie, et voilà, une victoire à Rome aussi, si je dis pas de bêtises. Donc voilà, moi je pense que c'est l'équipe du Betis, en tout cas, avec l'envie, elle est capable de l'envie et l'initiative, elle est capable de faire quelque chose, parce que même les matchs face au Barça, face à l'Atlético aussi, qui avait été une défaite assez difficile, je crois. Voilà, ce sont des matchs que le Betis perd sur pas forcément grand-chose, en tout cas. Et bon, après, ça complète le travail de Pellegrini, mais je pense que le Betis gagnerait plus à prendre l'initiative, surtout dans les matchs comme celui-ci ce week-end à domicile.
Ouais, bah, tout à fait. Tu nous as quand même bien présenté cette situation. On a été assez complet là-dessus. Et c'est vrai que c'est assez compliqué aussi à analyser un peu cette forme-là. Mais c'est quand même une très très belle équipe, ce Bétis. On va passer maintenant au Real Madrid. Alors il y a eu récemment cette fantastique victoire du côté d'Anfield. Voilà, le 5 buts à 2, incroyable. Après un premier quart d'heure où le Real Madrid était sous l'eau. 5 buts, une avalanche, vraiment c'était dingue. Mais voilà, mine de rien, en Liga récemment, sur les dernières semaines, on retrouve un Real Madrid qui a un peu de mal, qui n'arrive pas vraiment à enchaîner les victoires. Hier, tu l'as dit, enfin, on l'a laissé entendre, il y a cette défaite lors du Classico, lors de cette première demi-finale de Copa. Comment est-ce que toi, Angie, tu expliques un peu cette difficulté du Real Madrid cette saison sur la scène espagnole? Et est-ce que réellement il y a une difficulté? Parce que au final, on se rend compte qu'en termes de statistiques, au niveau des points pris, ben, c'est sensiblement pareil à la saison précédente. Et le Real Madrid est allé plus loin déjà en Copa que la saison précédente.
Oui, c'est sûr que si on regarde que sur le résultat, on peut se dire que bon, bah, c'est peut-être le même Real Madrid. Alors, plus ou moins, sauf que je dirais qu'on avait aussi bah, évoqué cela, c'est-à-dire qu'en début de saison, où bah, le Real Madrid n'a pas réellement fait de super mercato pour renforcer certains postes, et notamment en attaque ainsi que sur les postes de latéraux. En attaque, pourquoi? Parce que tout simplement, bah, tu vends Jovic, tu n'as que Mariano, mais qui ne joue que très peu, et puis tu comptes énormément sur Benzema, qui a quand même 35 ans et qui ne peut pas jouer tous les matchs. On l'a vu cette saison où il a été beaucoup absent. Et où tu vas jouer, bon, bah, avec soit un Rodrigo en faux neuf, et où ça peut marcher sur quelques matchs, mais sans plus. C'est les mêmes difficultés, on va dire, qu'on rencontrait aussi face à quelques blocs bas, en tout cas surtout en Liga, parce que c'est vrai qu'en Ligue des Champions, bah, on ne rencontre pas ce même type d'équipe. Donc je dirais qu'il faut dissocier aussi la Ligue des Champions du championnat. Et c'est quelque chose qui me surprend pas. Hein. Moi, j'avais dit, hein, si le Real n'essayait pas de se renforcer... Ça allait pas le faire. Et puis la deuxième chose, c'est on voit que le Barça reprend aussi des couleurs, donc ça aussi il faut prendre ça en compte. Donc tout ceci s'explique par ces choses-là, on va dire ça comme ça. Puis aussi parce que tes cadres commencent à se fatiguer tout simplement. Donc c'est moins efficace, on va dire ça comme ça. C'est moins efficace. Mais malgré tout, on voit quand même un Vinicius qui, bon, essaye quand même de prendre un petit peu le lead, mais il est un peu esselé, on va dire, en tout cas au niveau de l'attaque. Donc c'est un peu compliqué, c'est un peu compliqué. Je pense que aussi que malgré tout, la perte aussi de Casemiro et de l'avoir remplacé, alors je ne dis pas que, attention, que Tchouaméni ne fait pas le poids ou quoi, mais c'est quand même quelqu'un qu'on remplace assez difficilement, hein, surtout un numéro 6. Et on le voit parce qu'ici, on prend beaucoup de buts, par contre, pas que par rapport à la saison dernière, par exemple. Donc, je ne suis pas surprise, en fait. Je ne suis pas surprise de la saison du Real Madrid. Ce n'est pas non plus catastrophique. Comme tu l'as dit, en Copa, quand même, on réussit à aller au moins en demi, chose qui n'était pas arrivée depuis un bon moment. Donc oui, effectivement, sauf que ton effectif est trop court. Donc il est là aussi le souci.
Ouais, c'est aussi un mal que partage le Barça. On l'a vu sur ces dernières semaines, un effectif un peu trop court, un banc pas assez fourni, et ça demande au titulaire d'utiliser beaucoup d'énergie. Et c'est ce qui peut occasionner aussi quelques petits matchs un peu ratés. Tu l'as dit, hein, c'est vrai que Casemiro, il manque beaucoup à cette équipe. On voit à quel point il fait du bien à Manchester. Il a pris vraiment la température de la Première Ligue. Et oui, c'est un joueur qui en a encore dans le réservoir. Il manque, ça c'est sûr, ça se ressent. Je pense que ta remarque sur les buts encaissés est tout à fait juste à ce niveau-là. Et on va passer à nouveau au Bétis. On parle d'une absence. Alors lui, il n'est pas parti, mais enfin, il est indisponible jusqu'à la fin de la saison. C'est un joueur qui plaît à n'importe qui aime le football, et surtout le football pratiqué en Espagne. C'est Nabil Fekir. Ça, c'est la grosse mauvaise nouvelle de la semaine dernière. Rupture des ligaments croisés, donc il sera absent jusqu'à la fin de la saison. Est-ce que c'est un coup dur? Est-ce que c'est insurmontable pour le Bétis? Et selon toi, comment va faire Pellegrini, Ruben, pour pallier à cette blessure?
Évidemment, le terme de coup dur, je pense, est très adapté, parce qu'on sait que Nabil Fekir, c'est quand même un joueur qui a une capacité à déverrouiller des matchs à lui tout seul. On l'a vu depuis son arrivée au Bétis, c'est quelqu'un qui est un facteur différentiel, on va dire, dans beaucoup de rencontres, et même qui techniquement est un joueur qui amène énormément de bonnes situations au Bétis. On sait d'ailleurs qu'il a provoqué beaucoup de pénalties depuis qu'il a été transféré, depuis qu'il est arrivé en tout cas au Bétis. Et c'est un joueur qui a toujours été une pièce maîtresse de cette équipe. Maintenant, je ne sais pas si c'est insurmontable, parce que cette équipe du Bétis a quand même un vivier de joueurs qui est assez impressionnant. Ce qui est sûr, c'est que il va falloir en tout cas revoir l'animation, notamment dans le dispositif de Pellegrini, qui est souvent un 4-2-3 d'ailleurs, hein, c'est le système qu'il adopte très souvent. Et on sait qu'il y a un joueur comme Canales également qui peut un peu prendre cette fonction-là, mais c'est vrai que le Canales, qui habituellement joue plutôt sur un côté, du coup devrait être positionné dans l'axe s'il prend la place de Fekir, et ça ouvre la place après à évidemment beaucoup de joueurs. Donc ça sera aussi l'occasion de voir un peu plus des joueurs comme Luis Enrique, comme Juan Mi, qui continuent de jouer évidemment, mais qui parfois doivent se battre pour une place aussi. Il y a des joueurs comme Joaquin qui évidemment sont toujours là, même malgré leur âge avancé. Et donc moi, en tout cas, je pense que ce Bétis a la matière et la qualité pour, entre guillemets, se remettre. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que Canales, ce n'est pas non plus un joueur qui est a le même rôle que Fekir. C'est pas un joueur qui a les mêmes qualités que Fekir, donc on n'aura pas évidemment du Fekir à 100%. Mais je crois qu'en tout cas dans le profil et dans les intentions de jeu, je pense que de Pellegrini, pardon, je pense que c'est le joueur qui peut correspondre le mieux à ce que faisait Fekir, parce que c'est un joueur qui techniquement est d'une qualité assez impressionnante. C'est un joueur qui, pareil, alors s'illustre peut-être un petit peu moins par les buts et par les passes décisives, encore que, mais c'est un joueur qui est vraiment impliqué sur énormément d'actions offensives du côté du Bétis. Alors c'est vrai que il est parfois aussi c'est un joueur malheureusement Canales qui a on va dire un physique qui est parfois assez fragile, et c'est vrai que il a manqué parfois des rencontres assez souvent dans sa carrière, peut-être moins ces derniers temps, mais il a quand même manqué, voilà, dans certains moments de sa carrière, des matchs importants, parce que c'est quelqu'un qui se blesse assez facilement, malheureusement, j'ai envie de dire. Mais voilà, je pense qu'en tout cas il faudra beaucoup se baser sur la figure de Canales. Et puis après, il y a tous les joueurs, évidemment, que j'ai cités avant. Il y a Juanmi, qui, bon, voilà, qu'on connaît bien, qui est quand même voilà, aussi un joueur dans ce Betis qui s'est affirmé. Et puis voilà, je parlais de Joaquín avant, je parlais de Luis Enrique, pareil, qui est une recrue vraiment très intéressante du Betis depuis l'été dernier. Donc il y a de la qualité. Puis évidemment, il y a le jeune joueur, je crois que c'est Rodri, si je ne dis pas de bêtises. C'est ça, voilà, Rodri, qui pareil, voilà, va, mine de rien, cette blessure, entre guillemets, va lui profiter, parce que c'est aussi dans ce genre de contexte que les joueurs les plus jeunes apprennent. Donc voilà, au final, je pense que quand même ce Bétis a la qualité pour s'en remettre. Maintenant, par contre, ce qui va être aussi intéressant à voir, c'est la gestion. Ça, c'est plus général, et ça dépend pas forcément que de Fekir, mais la gestion d'effectifs avec l'Europa League en plus, parce qu'on sait que, évidemment, quand tu te passes un joueur comme Fekir, ça oblige aussi à revoir pas mal de plans, on l'a dit. Donc voilà, moi en tout cas, je résume ça un peu de cette façon-là, même si c'est vrai que ça va être évidemment une perte importante pour le Bétis. Je pense qu'en tout cas, il y a de la qualité pour se battre jusqu'au bout pour une qualif en LDC. Voilà, c'est l'objectif du club, je pense, et puis il a les moyens pour, exactement comme la Real Sociedad notamment, qu'on cite beaucoup aussi, pareil, pour une qualif en LDC. Donc voilà, un peu ces joueurs-là qui pourraient remplacer Fekir, mais c'est vrai que pour lui et pour le Bétis, c'est une perte quand même importante, puisqu'on parle, ouais, de moins un retour, pas avant l'été. Donc c'est même pas dit, voilà, aussi qu'il soit là dès le début de saison prochaine.
Ouais, tout à fait. Et puis bon, on a vu un Bétis qui reprend quand même des couleurs, on en a parlé. Je pense que pour des joueurs comme Canales, même Borja Iglesias, voilà, tu faisais écho à ça. C'est des joueurs qui maintenant, je pense, ont commencé à vraiment digérer le fait qu'ils n'ont pas été au Mondial, donc ils retrouvent petit à petit leur importance dans l'équipe. Mais c'est sûr que voilà, Nabil Fekir, c'est le facteur plus. Ça fait un peu aussi écho au match aller, hein, au Bernabéu, avec un Nabil Fekir qui se blesse dès les premières minutes
Ouais.
et un Bétis qui perd 2-1, il me semble. Voilà, c'est sûr que pour ce genre de gros match, c'est un joueur qui va manquer. Il est toujours virevoltant, et puis sur les phases de transition, il est très très important. Donc bon, on va voir comment Pellegrini peut faire, mais en tout cas, cette lutte pour la Ligue des Champions, elle promet d'être belle dans les dernières semaines de la compétition, parce qu'il y a quand même beaucoup beaucoup de clubs qui sont dans un espèce de mano à mano assez intéressant. On va passer maintenant à nouveau du côté du Real Madrid, avant de vraiment rentrer dans le vif du sujet et parler plus en profondeur du match. Il y a un thème quand même qui revient assez souvent dans la presse. Marca en faisait la une d'ailleurs, il n'y a pas si longtemps, il y a quelques jours, en parlant de Modric. Où est-ce que ça en est au niveau de certains joueurs qui sont en fin de contrat? Alors, il y en a plusieurs, Modric, Kroos, Benzema. Benzema, on dit que normalement il devrait prolonger, mais bon, c'est pas encore officiel. Marco Asensio aussi, Dani Ceballos, voilà. Toi, Angie, est-ce que tu peux nous faire un petit récapitulatif de ce qui est en train de se passer? Et selon toi, quels seraient les joueurs avec qui il faudrait continuer? Et pourquoi pas certains dire tout simplement stop?
Bon, on va commencer par Ceballos. Moi, je pense que c'est un joueur auquel il faut continuer, parce qu'on a vu que quand il a remplacé tout simplement Luka Modric, il nous a fait beaucoup de bien. C'est un joueur qui est en fin de contrat. Il me semble que le board est plutôt pour le prolonger, mais ça, par contre, comme d'habitude, il faudra attendre voilà, vers avril-mai pour les prolongations. Le cas de Asensio est un peu complexe. C'est quelqu'un qui a envie aussi d'être, entre guillemets, un titulaire. Ce n'est pas le cas du board qui lui propose plutôt d'être, entre guillemets, un remplaçant en lui donnant un salaire alors un peu plus élevé, mais pas tant que ça non plus. On sait que, bon, voilà, Jorge Mendes, de négocier avec Jorge Mendes, ça va être un peu compliqué. Donc, je ne suis pas sûre qu'il puisse rester. Et concernant, par contre, Luka Modric, il l'avait dit en conférence de presse, le Real ne lui a toujours pas proposé de prolongation. Il se pose la question aussi, est-ce que justement, Luka, il pourra tenir encore une saison. Et c'est tenir encore une saison, mais pas en étant forcément aussi titulaire. Pour Toni Kroos, ils essayent quand même de le prolonger. C'est celui qu'ils ont envie de prolonger. Ce n'est pas forcément le cas de Modric. Bien que, il va donner sa réponse, comme il l'a dit il n'y a pas si longtemps, d'ici peu. Donc, pour Toni Kroos, ça va dépendre que de lui-même. Et pour Luka Modric, c'est plutôt vis-à-vis du board qui se pose énormément de questions. Par contre, pour Karim Benzema, ça dit plutôt que il serait encore là sur la saison prochaine. La question est de savoir est-ce que ils iraient chercher un attaquant en plus, justement, hein, parce que je pense que on le voit même cette saison, c'est compliqué. Il se blesse quand même assez énormément. Donc, faire une saison de plus. Je pense que ça va être compliqué pour lui. Maintenant, si c'est 2 mois, ça ne va pas plaire. Hein. Je pense que ça ne va pas plaire à certains qui vont m'écouter. Mais ça serait que moi.
C'est un sujet un peu compliqué.
Aïe, oui, ça serait que moi. Je vais m'expliquer. Je sais que ça ne va pas aller dans le sens du board. Ce n'est pas parce que c'est Luka Modric, mais je pense qu'il sera toujours utile, même en tant que, c'est-à-dire remplaçant. Je sais que, je ne dis pas qu'il faut qu'il soit titulaire, mais en tant que remplaçant, il sera toujours utile pour moi. Je trouve que c'est celui que beaucoup s'inspirent, notamment au milieu, parmi les jeunes en tout cas, et même d'autres, hein, ce n'est pas forcément que les milieux. Donc je l'aurais gardé moi quand même une année, mais en tant que remplaçant. Pour Toni Kroos, j'ai l'impression que c'est un peu comme, comme Busquets avait au Barça. C'est des joueurs qui sont, enfin, comment dire, qui ont un grand QI, mais qui malheureusement dans ce football moderne-là, moi je trouve, hein, c'est mon avis, quand il y a un gros pressing, c'est compliqué. Donc je ne serais pas forcément pour le prolonger. Et pour Karim Benzema, malheureusement, sur le marché des neufs, c'est assez compliqué. Je pense que je garderai aussi en remplaçant. Je le regarderai en remplaçant et j'irai chercher un numéro 9. Ça, c'est mon avis. Et pour Ceballos, je le prolonge, il n'y a même pas, je ne réfléchis même pas, je le prolonge. Pour Asensio, il y a écho que Brahim pourrait revenir parce que Milan, je crois qu'ils ont du mal à vouloir payer du moins la clause. Pourquoi pas? Après, quand je vois aussi ce que fait par exemple un Kubo avec la Real Sociedad, je me dis pourquoi pas non plus. C'est à voir. Mais je pense que si Asensio n'accepte pas, ça ne sera pas non plus pour moi une perte. Et puis on irait chercher ces jeunes-là qu'on a laissés dans notre club.
Ok, donc c'est vrai que c'est un domaine assez complexe et assez riche. C'est vrai que pour revenir sur Dani Ceballos, c'est un joueur qui a vraiment été assez impressionnant sur les dernières semaines aussi, et qui montre qu'il a aussi sans doute toute sa place dans cette un peu transition, hein, avec les joueurs un peu plus âgés. Mais on ne manquera pas de suivre un peu ces dossiers parce que, mine de rien, plus les jours passent, plus certains contrats sont proches d'arriver à expiration. Et puis, comme on l'a dit dans ce petit sujet, on ne parle pas non plus de joueurs, de joueurs un peu lambda, on parle quand même de vrais cadres de cette équipe.
À fait possible que Toni Kroos et Modric partent en même temps. Hein. Ça, c'est pas quelque chose à écarter. Hein.
C'est vrai. De toute façon, les prochaines semaines seront assez intéressantes sur ce point-là pour suivre un peu tous ces dossiers. Je vais rester avec toi, Angie, justement. Là, maintenant, ça y est, on rentre vraiment dans le match. Est-ce que tu peux nous faire un état des lieux un peu du groupe qu'aura à disposition Carlo Ancelotti pour cette rencontre?
Alors, normalement, tout le monde sera là. Alors, sauf Mendy, où ça fait un petit moment qu'il est blessé. Alaba qui est blessé et puis Modric est suspendu. Donc, à part ces trois-là, il y a tout le monde qui sera présent.
Ok, donc ça y est, quand même un groupe assez dense pour le Real Madrid, même si oui, c'est vrai que Modric ne sera pas présent. Ruben, pour le coup, du côté du Bétis, qu'est-ce que tu peux nous dire? En plus de Nabil Fekir, bien sûr, qui est désormais out pour la fin de saison.
Voilà, exactement. Bah, donc du coup, on le disait Fekir, il y a évidemment un joueur dont j'ai parlé avant. Alors c'est vrai que j'aurais peut-être dû le préciser quand je faisais mon explication, mais c'est a priori Canales qui sera pas là parce qu'il s'était blessé lors du match contre Valladolid il y a 2 semaines. Et en tout cas, il y aura peut-être moyen qu'il soit là, mais le club ne veut pas prendre de risque vis-à-vis du match face à Manchester United qui arrive. Et en principe, Canales ne sera pas là non plus, donc face au Real Madrid. Mais on parle d'un retour ensuite, par contre, face à United. Et puis également Juan Cruz qui devrait être absent jusqu'à fin mars, à peu près de ce que j'avais pu noter, et qui ne sera pas là pour ce match. Mais voilà, donc disons deux grosses absences et le reste du groupe qui, normalement, sera présent pour cette rencontre.
Ok, d'accord, très bien. Bon, ben justement, je reste avec toi, voilà, avec ces absences-là. Comment est-ce que tu vois cette rencontre? Voilà, est-ce que tu penses qu'elle pourrait basculer à cause de... Quel joueur pourrait la faire basculer? Voilà, comment tu analyses un peu ce match?
Ben, disons que je ne suis pas forcément très confiant pour le Bétis sans pour autant non plus être inquiet. C'est-à-dire que on sait que cette équipe du Bétis, alors effectivement, les derniers matchs ont peut-être été un peu moins impressionnants, même s'il y a quand même 3 victoires au final consécutives. Il y a eu un contenu quand même des matchs qui ont été vraiment très poussifs. Donc sur ce point-là, je suis plutôt préoccupé, surtout que il y a aussi, voilà, on l'a dit, des absences de Fekir et vraisemblablement de Canales également qui sera pas là. Donc ça fait quand même enfin, en tout cas deux joueurs importants du dispositif de Pellegrini et du jeu de ce Bétis qui seront pas là. Donc ça, c'est des éléments à prendre en compte. Maintenant, comme je vous dis, ce Bétis a quand même rarement été ridicule contre les gros, et je pense que ce week-end, ça sera encore le cas, parce que c'est une équipe qui, en même temps, en plus de, voilà, d'avoir la volonté quand même de prendre des points, qui a surtout la nécessité de prendre des points. On sait qu'il y a une course à l'Europe, une course à la LDC surtout, qui est complètement relancée, parce qu'on se rappelle qu'il y a quand même quelques semaines encore, le Bétis avait une dizaine de points d'écart sur la Real Sociedad. Aujourd'hui, il n'y en a plus que 3. La Real Sociedad qui est troisième, on rappelle donc le Bétis qui a 3 points du podium, ce qui est relativement pareil, relativement impressionnant, et qui voilà, montre bien que cette course quand même est loin d'être finie. Donc je pense que le Bétis, en tout cas, c'est que sur ce match, il y a tout à gagner. En face, on a Real Madrid qui, bon, on en parlera après, mais c'est vrai qu'il n'est pas mort pour la Liga et qui, en tout cas, a peut-être pris un léger espoir, on va dire, avec la défaite du Barça la semaine dernière et donc le fait qu'il n'y ait pas eu 10 points d'écart. Maintenant, on sait que c'est non plus pas le Real Madrid qui est dans sa meilleure forme en face, et le Bétis a pour moi un coup à jouer. Donc je pense que voilà, c'est un match qui va être difficile parce que le Bétis, en tout cas, devra, comme je le disais au début, prendre un peu l'initiative du jeu. Je pense que c'est le moment. En plus, NG a parlé de certains absents, enfin, parlé de Modric principalement, en tout cas, qui voilà, vont paraître un absent quand même de taille. Et je pense que c'est pareil à prendre en compte. Donc ce Bétis, voilà, va devoir, en tout cas, comme selon moi, je le vois, et comme c'est un peu le constat que je dresse de manière générale, va devoir prendre l'initiative du jeu peut-être un peu plus directement, parce qu'en plus ils seront devant leur public. On sait que le Villamarín, c'est pareil, c'est un très beau stade et très souvent complet. Ça sera sûrement le cas aussi ce dimanche. Mais en même temps, voilà, aussi être vigilant, en tout cas. Mais je pense que si ce Bétis, en tout cas, part avec dès la première minute de jeu, l'intention de prendre le jeu à son compte à un maximum, même si en face on parle d'une équipe comme le Real Madrid, je pense qu'il y a moyen de faire des dégâts. Mais on en reparlera au moment du pronostic, en tout cas. Mais je pense que ça va être une rencontre, pardon, qui sera vraiment équilibrée. Puis voilà, c'est vrai que Ceballos, on en parlait avant, c'est un joueur aussi qui avait failli revenir au Betis l'année dernière. Donc ça sera intéressant aussi de le voir, bon, du côté du Real Madrid évidemment, mais rejouer face à cette équipe du Bétis, en tout cas. Donc voilà un peu l'analyse que j'en dresse pour cette rencontre, qui évidemment pèse lourd pour le Real Madrid, mais pèse lourd aussi pour le Bétis, qui certes a une avance sur les équipes qui sont derrière, sur Villarreal, Atlético, le Rayo, Osasuna même aussi, qui sont un peu plus loin. Mais c'est vrai qu'il y a aussi une importance, en tout cas pour le Bétis, de gagner, parce que la Real va jouer là où on enregistre contre Cadiz, et l'Atlético va jouer contre Séville, qui sera pas non plus un match facile. Donc voilà, le Bétis aussi a tout intérêt à enchaîner et à prendre des points, parce que cette saison est loin d'être finie. Il faut maintenir en tout cas la dynamique de confiance qu'il y a depuis maintenant un certain temps avec ce que fait Pellegrini.
Ok, donc vraiment un match qui peut être un match charnière, hein, on l'a bien compris pour cette saison, et pourquoi pas vraiment une véritable déclaration d'intérêt pour le sommet du championnat, voilà, avec ce top 4 en ligne de mire. Toi, du coup, Angie, après tout ce qu'on a dit, comment est-ce que tu vois cette rencontre? Voilà, pareil, même question.
Là, par contre, je me pose un peu des questions sur comment va jouer le Bétis, même si je me dis que c'est pas trop non plus. Enfin, quand ils vont jouer quand même face à leur public, c'est pas trop une équipe qui va mettre entre guillemets, on va dire ça comme ça, un bus. Mais avec l'absence, donc tu disais qu'il n'y avait pas Canales et Fekir.
Ouais.
Bon, c'est possible que voilà, ils n'ouvrent pas tellement le jeu, je pense. Du moins, s'ils veulent essayer de gratter un point, ou voire de gagner, hein, du moins. Vis-à-vis du Real Madrid, avec l'absence de Luka Modric, je pense que ça va être Ceballos qui jouera. Ce n'est pas encore confirmé, mais ça, je pense que ça va être lui, parce qu'en règle générale, c'est celui qui remplace Modric. Donc, il jouera quand même face à son équipe, on va dire, de formation, quoi. Donc ça sera assez sympa. Maintenant, après on va dire entre guillemets, enfin la débâcle entre guillemets, enfin le match perdu, donc en Copa, faut voir comment l'équipe va réagir. Je vois que les joueurs, malgré tout, bon, ont publié sur leur Insta que ben en gros ils y croyaient toujours. Donc je pense que même par rapport, enfin en Liga, ils vont essayer aussi de tout donner. Avoir l'animation aussi, parce qu'avec un milieu de terrain assez changé, mais je pense qu'avec un Ceballos, ce sera un petit peu mieux, ce sera un jeu un peu plus vers l'avant. Mais c'est vrai que bon, cette équipe du Betis est un peu décimée, surtout au milieu, donc on ne verra pas forcément le même Betis qu'on voit jouer, on va dire, chaque week-end en Liga. Donc à voir, mais je pense que ça va être un match assez serré quand même.
Ok, donc un match assez serré. C'est vrai que ce sont toujours des matchs assez intenses, hein, quand le Betis reçoit le Real Madrid. Enfin, de toute façon, tous les matchs au Benito Villamarín, du moins les matchs qui incluent des équipes de première partie de tableau, sont toujours très intenses. On voit du spectacle, donc c'est assez sympa. Bon, peut-être que le dernier 0-0 contre l'Athletic Club était un peu décevant, pour faire écho à ton
Ouais.
club, Ruben, mais sinon, non, en général, c'est toujours une garantie de spectacle. Tu nous as parlé de matchs assez serrés. Pour terminer ce podcast, quel serait ton pronostic du coup?
Ça c'est compliqué. Bon, j'ai donné un pronostic comme ça, mais j'ai pas envie d'avoir un match nul. Ouais, je vais quand même dire ça. Allez, vas-y, on va un peu y croire. Je vais dire 2-1.
D'accord, du coup, une victoire 2-1 du Real Madrid. Toi, Ruben, avec un œil forcément plus neutre, comment est-ce que tu vois cette rencontre
Moi,
au
je.
niveau du sport?
Ouais, bien sûr. Moi, en tout cas, je dirais un match nul. En tout cas, je vois le Bétis en être capable. C'est vrai que Angie, bah, le disait très justement, c'est vrai que. Il n'y aura pas Canales et Fekir, mais moi je pense que ce Bétis a quand même, enfin en tout cas la nécessité en tout cas de faire quelque chose et de ne pas perdre ce match en tout cas, au moins de prendre un point, elle est au-dessus de tout et je pense que malgré les absences qui évidemment sont cruciales, je pense que c'est ce Bétis en tout cas a les moyens et surtout le devoir de faire quelque chose donc. Je dirais voilà un match nul un partout, je pense que ça me semblerait être un résultat cohérent, même si en face on sait que le Real Madrid aussi va rien lâcher pour la course au titre notamment.
Ok, ben c'est sûr qu'en plus, juste avant ce match, à 16h, il y aura un Barça-Valence. Et donc, potentiellement, le Barça aura 10 points d'avance virtuellement, ou alors restera à 7, et donc le Real Madrid pourra revenir, ou même avec un match nul, pourra revenir aussi. Donc, ce sera vraiment très intéressant, juste avant ce match, de voir ce qui se sera passé un peu dans cette journée. Pareil, hein, la Real Sociedad qui joue ce soir, l'Atlético qui reçoit le Séville. Hein, donc, voilà, c'est vraiment un match qui bouclera pas cette journée. Il y aura aussi le Osasuna Salta de lundi, mais voilà, on aura, je pense, un week-end qui pourra commencer à traduire beaucoup de choses au niveau du classement. Ça va être vraiment très intéressant. Et puis ouais, c'est un match à ne surtout pas manquer. En tout cas, je vous remercie tous les deux d'avoir participé à ce podcast, de nous avoir présenté cette rencontre. Je vais commencer par toi, Angie. Merci vraiment d'être venu.
Merci à vous, c'était un plaisir.
Voilà, un mot, voilà, c'est sobre, c'est clair, c'est net, c'est efficace, c'est le Real d'Ancelotti l'année dernière, on va dire. Et merci à toi, bien sûr, Réfé, d'être occupé du Real Betis.
Bah avec grand plaisir, c'est en tout cas voilà, pareil, très content de refaire ces podcasts, de reprendre le chemin des podcasts, et puis j'en profite juste pour dire un mot, parce que c'est vrai que ça fait quelques jours maintenant, mais on a un peu précisé, mais en tout cas, par rapport aux 100 000 abonnés, en tout cas, merci beaucoup, parce que c'est vrai que on n'avait pas l'occasion de remercier les abonnés et les gens qui nous écoutent, enfin même plus que les gens qui nous écoutent, parce que il n'y a pas encore autant de gens qui écoutent les podcasts que d'abonnés à la chaîne, mais en tout cas, voilà. Ça va venir petit à petit, chaque fois en son temps, effectivement. Mais en tout cas, voilà, c'était remercier tous les abonnés qui, en tout cas, nous suivent maintenant depuis bientôt 4 ans, et remercier voilà, ces 100 000 abonnés, en tout cas. Mais voilà, en tout cas, j'espère que ce numéro vous aura plu. Puis merci à toi, évidemment, Sacha, d'avoir animé également. C'était un grand plaisir, comme à chaque fois.
Toujours un plaisir de retrouver le siège, voilà, de se poser, de parler de foot espagnol. C'est vrai que ces 2 semaines de trêve, voilà, on n'y était pas habitué, mais c'est bon, on est vraiment de retour. Et puis oui, comme tu l'as dit, les 100 000 abonnés, c'est vrai que ça fait toujours plaisir, c'est vraiment gratifiant. Et merci, merci vraiment du soutien, de nous suivre et de nous accorder aussi votre confiance. Donc c'est vraiment génial. En tout cas, on se donne rendez-vous du coup pour ce match dimanche soir à 21 h au Benito Villamarín. Prenez soin de vous et voilà, profitez bien de ce super week-end de foot espagnol.